Nikolaï Gogol, La nuit de la Saint-Jean. Histoire vraie racontée par le sacristain de l'église de... Foma Grigorievitch avait une bizarrerie à lui. Il n'aimait pas à raconter toujours la même chose. Si parfois, à force d'obsession, on le décidait à répéter une histoire qu'il nous eût déjà fait entendre, vous pouviez être sûr alors qu'il y ajoutait une version nouvelle ou qu'il la transformait de telle sorte que les deux récits n'avaient plus entre eux aucune ressemblance. Un jour, un de ces messieurs, de ceux que nous autres simples gens, il nous est difficile de définir, sont des écrivains ou des écrivailleurs, mais enfin, pareil à ces saltimbanques de foire qui quémandent, grappillent, volent de ci, de là, toutes sortes de choses, pour nous les servir ensuite en petits feuillets au mois ou à la semaine. Un de ces messieurs a pris cette histoire de Foma Grigorievitch, qui depuis l'a lui-même oublié. Mais voilà que, précisément, arrive de Poultava ce jeune barin en caftan couleur petit pois dont je vous ai déjà une fois parlé. Peut-être même avez-vous déjà lu son récit. Il apporte avec lui un petit livre et nous le montre en l'ouvrant au milieu. Foma Grigorievitch s'apprête à enfourcher ses lunettes sur son nez, puis se souvenant qu'il a oublié de les consolider avec du fil et de la cire, il me passe le livre. Moi, qui sais lire tant bien que mal et qui n'ai pas besoin de lunettes, je me mets à faire la lecture tout haut. À peine ai-je tourné deux pages que tout à coup Foma m'arrête par le bras. « Un instant, dites-moi avant tout ce que vous disiez. » J'avoue que j'étais stupéfait d'une telle question. « Comment ce que je lis, Thomas Grigorievitch, mais c'est votre histoire, ce sont vos propres paroles. »« Et qui vous a dit que ce sont mes propres paroles ?»« Ben, il n'y a pas à en douter. » C'est même imprimé, raconté par un tel sacristain. Eh bien, crachez-lui dans la figure à celui qui l'a imprimé cela. Immense fils de chien, ce moscovite. Est-ce de cette manière que j'aurais raconté cette histoire? Faudrait avoir une araignée dans la tête. Écoutez, plutôt, je vais vous la raconter telle qu'elle est. Nous nous approchâmes de la table et il commença. « Mon grand-père, Dieu est son âme, qui ne mange dans l'autre monde que des petits pains au lait et des gâteaux de miel, mon grand-père savait très bien raconter. Quand une fois il s'était mis en train, on n'aurait pas bougé de sa place d'une journée pour l'écouter. Ce n'était pas de ces hâbleurs d'aujourd'hui qui cherchent à vous en imposer, et traînent leur récit avec une langue pâteuse, comme s'ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. C'est à saisir son bonnet et à se sauver. Ma vieille mère était alors encore de ce monde. Et, aussi bien que si c'était maintenant, je me souviens que par une longue soirée d'hiver où la gelée crépitait au dehors et murait l'étroite fenêtre de notre chaumière, elle était assise en tenant sa quenouille d'une main étirant le long fil et avec son pied faisant mouvoir le berceau tout en fredonnant une chanson que je crois toujours entendre. La chambre était éclairée par un lampion qui tremblait et qui, par instant, se ravivait tout à coup comme s'il eût pris peur de quelque chose. Le rouet bourdonnait et nous tous, enfants, tassés en un petit groupe, nous écoutions le grand-père qui, à cause de sa vieillesse, depuis plein de 5 ans, ne descendait pas du poêle. Tout merveilleux que fussent ces beaux récits du vieux temps sur les invasions des Zaporogues, sur les Polonais, les grands exploits de Podkova, de Sadaïchatchi, aucun ne nous intéressait autant qu'une de ces vieilles légendes qui vous donnent des frissons dans tout le corps et vous font dresser les cheveux sur la tête. Parfois, une telle peur vous envahit que, vers le soir, vous croyez voir un monstre dans le moindre objet. Quand il m'arrivait d'être obligé de sortir de ma chambre pendant la nuit, je ne faisais que penser, pourvu que quelques revenants ne viennent pas se coucher sur mon lit. Et que je meure si je ne prenais pas ma propre suite, car posée du côté de la tête pour un diable recroquevillé. Mais ce qui était surtout à considérer dans le récit du grand-père, c'est que de toute sa vie, il ne mentait jamais. Et ce qu'il racontait est réellement arrivé tel quel. C'est une de ces histoires extraordinaires que je vais vous narrer un instant. Je sais qu'il se trouve beaucoup de ces raisonneurs, écrivains publics, sachant même lire les caractères laïques, à qui cependant vous ne pourriez mettre entre les mains un simple bréviaire, fût qu'ils n'y comprendraient rien, mais pour rire de vous, exhiber leurs dents à leur propre honte, pour cela ils le savent. Tout ce que vous leur racontez est sujet à rire. Voilà quel point l'incrédulité s'est répandue dans le monde. Ainsi, le croiriez-vous, Dieu la Sainte Vierge me renie si cela n'est pas. Un jour, je parlais de sorcières devant des gens, et parmi eux, il s'est trouvé un luron qui ne croyait pas aux sorcières. Oui, je puis le dire, j'en ai rencontré dans ma vie de ces incrédules à qui il coûte moins de mentir à confesse qu'à nous autres de prendre une prise de tabac. À cela, naturellement, les sorcières n'ont jamais fait peur. Mais qu'ils se dressent tout à coup devant eux, oh, je tremble même de dire quoi. Oh, au fait, inutile de s'occuper de ces gens-là. Il y a de cela plus de 100 ans, disait mon défiant fin grand-père, personne n'aurait pu reconnaître notre village. Un hameau, le plus pauvre des hameaux. Une dizaine de chaumières, pas même blanchies à la chaux, mal couvertes, se dressaient çà et là au milieu du champ. Pas de haies, pas de hangar suffisamment abrité pour le bétail ou les charrettes. Et encore étaient-ce les riches qui habitaient ces demeures. Si vous nous aviez vus, nous autres pauvres, un trou creusé dans la terre, voilà notre chaumière à nous. Par la fumée seulement, on pouvait reconnaître qu'un être humain vivait là. Vous me demanderez peut-être pourquoi il en était ainsi. Bon, ce n'était pas précisément par pauvreté, puisque dans ce temps, presque tous faisaient les libres cosaques et allaient ramasser des biens à l'étranger. Mais plutôt parce qu'on trouvait inutile de construire de meilleures demeures. Et quel monde n'y voyait-on pas marauder ? Des Tartares, des Polonais, des Lituaniens, des Ukrainiens même venaient en bande pour dévaliser les leurs. Tout arrivait. Donc, dans ce hameau, apparaissait souvent un homme, ou plutôt un diable, sous la figure d'un homme. D'où venait-il ? Pourquoi venait-il ? Personne ne le savait. Il faisait la noce, il s'enivrait, puis subitement il disparaissait comme sous terre, et n'entendait plus parler de lui. Tout à coup, de nouveau, il semblait tomber du ciel, parcourait les rues du village dont il ne reste même plus de traces. Il ramassait sur sa route les cosaques qu'il rencontrait, et alors c'était des rires, des chansons. Il semait l'argent et l'eau de vie coulait comme de l'eau. Il bombardait les jeunes filles de cadeaux, rubans, boucles d'oreilles, colliers de sequins, à ne savoir qu'en faire. Il faut dire cependant que les jeunes filles hésitaient à les accepter. Qui sait, peut-être était-il passé par les mains du malin. La tante de mon grand-père tenait alors sur la route un cabaret où souvent nossait Bassavriou. C'est ainsi qu'on l'appelait, ce diable d'homme. Et elle disait que pour rien au monde, elle ne consentirait à accepter de lui le moindre cadeau. Et pourtant, comment ne pas l'accepter quand on voyait Bassavriouk froncer ses sourcils, dru et lancer en dessous un tel regard que l'on se serait sauvé à 1000 lieues. Mais si on se laissait tenter et que l'on prit le cadeau, la même nuit, quelque être du marais, les cordes sur la tête, venait vous visiter et se mettait à vous serrer le cou, s'il était orné du collier de sequins, ou à vous mordre le doigt qui portait la bague, ou à tirer la natte si le ruban y était attaché. Alors vous comprenez, merci de ces cadeaux. Seulement voilà le malheur, c'est qu'il était même impossible de s'en défaire. On le jetait à l'eau, le diable de collier ou d'anneau, surnageait et revenait de lui-même se remettre à sa place. Dans ce village se trouvait une église dédiée, je crois, à Saint Pantaléon. Le curé du presbytère, le père Athanase, de sainte mémoire, ayant remarqué que Bassavriouk, même le dimanche de Pâques, ne venait pas à l'église, voulut le gourmander et lui imposer une pénitence. Eh bien, c'est à peine s'il eut le temps de se sauver. « Écoute, mon bonhomme, gronda Bassavriouk comme réponse, mêle-toi de tes affaires et non de celles des autres, si tu veux pas qu'on te bouche la gueule avec de la bouillie chaude. Que vouliez-vous faire avec ce maudit ?» Le père Athanase se contenta de déclarer que celui qui aurait le moindre point de contact avec Bassavriouk serait considéré comme l'ennemi de l'Église orthodoxe et de tout le genre humain. Dans ce même village vivait, chez un cosaque du nom de Korjo, un domestique que les gens appelaient Petre, le sans-famille. Peut-être parce qu'il ne se souvenait plus ni de son père ni de sa mère. Le barguillier disait, il est vrai, qu'ils étaient morts de la peste l'année qui avait suivi la naissance de Petre. Mais mon arrière-grand-tante n'en voulait rien croire, et elle s'efforçait de trouver de tous côtés des parents à Petre, bien que celui-ci s'en souciât aussi peu que nous autres de la neige d'antan. Elle disait que le père de Petre, actuellement dans le pays des Aporogues, avait été jadis prisonnier chez les Turcs, où il avait souffert des tortures épouvantables et n'était parvenu à s'échapper presque miraculeusement qu'en se travestissant en eunuque. Qu'importait d'ailleurs la parenté de Petré? Les jeunes filles s'en inquiétaient fort peu. Elles disaient seulement que, si on l'habillait d'un cafetan neuf, d'une ceinture rouge autour des reins, qu'on lui mit sur la tête un bonnet d'astrakhan terminé au fait par une élégante calotte en velours bleu, un sabre turc au côté, une jolie pipe ornée d'arabesques à la main, il enfoncerait tous les garçons du pays. Mais le malheur était que le pauvre Petrus n'avait pour tout bien qu'un maigre cafetan gris percé de plus de trous qu'un juif n'a d'écu dans sa poche. D'après tout, ce n'eût pas été là un malheur irréparable. La vraie misère, la voici. Maître Carjo avait une fille, une beauté, telle qu'il ne vous ait pas été encore donnée, je crois, d'en voir le pareil. Ma grand-tante disait, et vous savez, sauf votre respect, qu'on ferait plutôt embrasser le diable à une femme qui ne lui fait avouer qu'une autre femme est belle. Ma grand-tante disait que les joues de la jeune cosaque en question étaient aussi éclatantes de fraîcheur que la fleur d'un coquelicot du rose le plus tendre, alors que, lavée par la légère rosée du matin, coquette, elle flamboie, étend ses pétales et se pavane aux rayons du soleil levant. Elle comparait ses sourcils noirs, ombrageant ses yeux limpides, comme s'ils eussent voulu s'y mirer, aux cordons fins que les jeunes filles achètent aux moscovites ambulants pour suspendre au cou leur croix et leurs médailles. Sa bouche, que les jeunes garçons ne pouvaient regarder sans se pourlécher, semblait comme créée pour ne faire retentir que les chansons de Rossignol. Ses cheveux, noirs comme le plumage du corbeau et souples comme du lin, alors les jeunes filles ne les nouaient pas en natte, elles les laissaient pendant, les enlaçant de jolis rubans écarlates. Ses cheveux tombaient en boucle par derrière, sur son kountouche brodé d'or, et que je ne chante plus jamais un seul alléluia dans le cœur, si moi-même, en la voyant ainsi, Je ne m'étais laissé aller à l'embrasser, malgré les cheveux blancs qui se faufilent dans la vieille forêt qui couvre mon crâne, et ma vieille qui ne me quitte pas plus qu'une tache sur l'œil. Or, là où une fille et un garçon vivent côte à côte, vous savez vous-même ce qui arrive. Souvent, à l'aube, on découvrait l'empreinte des talons ferrés des bottes rouges de Pidarka à la place où elle conversait avec son Pétrus. Cependant encore, je n'aurais eu aucun soupçon, mais voilà qu'un jour, trop probablement le malin le poussait, Pétrus, étourdiment, imposa de tout son cœur un baiser retentissant sur les lèvres roses de la Cosaque. Et probablement aussi le même malin que ce fils de chien, voilà Sainte-Croix en rêve, fit que le vieux Raifort ouvrit au même instant la porte sur le vestibule. Corgeot pétrifié, bouche béante, prêt à tomber de surprise, se raccrocha de la main à la porte. Ce maudit baiser semblait l'ahurir complètement. Il entendait retentir à son oreille comme un grondement de tonnerre. Revenu à lui, il prit au mur le clout de son grand-père et s'apprêtait déjà à en régaler le dos du pauvre Pétro, quand tout à coup, Ivas, le frère de Pidarka, jeune garçonnet de 6 ans, accourut et, tout effrayé, entourant de ses petites mains la jambe de son père, se mit à crier: Père, père, ne frappe pas Pétrus! Que faire? Le cœur d'un père n'est pas de pierre. Après avoir accroché le clou au mur, Corge mit doucement Pétrus à la porte. Si jamais tu reparais devant ma maison ou même sous mes fenêtres, tu risques de perdre des moustaches noires et que je ne t'appelle plus Corge. Si le seul délai qui font 2 fois le tour de tes oreilles ne disent pas adieu à ton crâne. Le léger coup sur la nuque dont il accompagna ces mots projeta Pétrus hors de la maison comme une pierre sans toucher terre. Ainsi finit l'embrassade. Le chagrin s'empara de nos tourtereaux. Précisément, on commençait à dire dans le village qu'un certain Polonais prenait l'habitude de visiter Corge. C'était un homme tout chamarré d'or, moustachu, avec un sabre, des éperons, des poches qui résonnaient comme l'aumônière avec laquelle notre bedeau Taras fait la quête dans les rangs à l'église. Eh bien, on sait pour quelle raison un homme fréquente la maison d'un père qui a une jolie fille aux sourcils noirs. Voilà qu'un jour, Pidarka, tout en larmes, prit dans ses bras son jeune frère Yves, passé, lui dit: Ivas, mon chéri, Ivas, mon adoré, cours chez Pétrus, mon trésor, comme une flèche. Raconte-lui tout ce qui se passe. Dis-lui que j'aimerai toujours ses yeux bruns, que j'embrasserai toujours son visage blanc. Mais ma destinée ne le veut pas. J'ai mouillé plus d'un mouchoir de mes larmes brûlantes. Le chagrin est comme un poids sur mon cœur. Mon propre père devient mon ennemi. Il me force à épouser un Polonais que je ne puis pas aimer. Dis-lui qu'on fait déjà les préparatifs pour la noce. Seulement, il n'y aura pas de musique. Les sacristains seuls chanteront au lieu de kobza et de fifre. Je ne danserai pas avec mon fiancé. On m'emportera. Ma chambre sera sombre, sombre. Ces cloisons seront de bois blanc. Et au lieu d'une cheminée, c'est une croix qui se dressera sur son toit. Terrifié, sans bouger de place, Pétrus écouta l'innocent enfant lui répéter les paroles de Pidarka. Et moi, malheureux, dit-il, qui pensais aller en Crimée dans la Turquie pour batailler, amasser de l'or et revenir riche auprès de toi, ma beauté. Le sort, hélas, en décide autrement. C'est un mauvais œil qui nous a jeté un sortilège. Eh bien, moi aussi, ma colombe, moi aussi, j'aurai une noce. Seulement, il n'y aura pas même de sacristain à mon mariage. Le corbeau noir croassera au-dessus de moi au lieu du pope. Le vaste champ sera ma demeure. Le nuage gris sera mon toit. L'aigle de son bec videra mes yeux. La pluie lavera les eaux du Cosaque, le vent les séchera. Mais que dis-je là? De qui me plaindre? Mais à qui me plaindre? Dieu l'a voulu ainsi. Que cela soit. Et droit, il s'en alla au cabaret. Ma grand-tante fut un peu étonnée de voir Pétrus dans le cabaret, surtout au moment où tout homme un peu rangé est à la messe du matin. Elle ouvrit ses yeux tout grands, comme si elle venait seulement de s'éveiller, quand il lui demanda une cruche d'eau-de-vie mesurant presque un demi-seau. C'est en vain que le malheureux pensait noyer son chagrin. L'eau-de-vie lui produisait sur la langue le même effet que des piqûres d'ortie et lui semblait plus amère que l'absinthe. Oh, il jeta la cruche par terre. « Cesse de te chagriner, Cosaque !» gronda tout à coup derrière lui une voix de basse. Pétrus se retourna. C'était Bassariouk. Quel masque, les cheveux comme de crin, les yeux de bœuf. « Je sais ce qu'il te manque, dit-il, voilà quoi !» Et alors, avec un sourire diabolique, il fit résonner la bourse en cuir pendue à sa ceinture. Petro tressaillit. « Hé, hé, comme ça brille » ricanait-il en versant en pluie, d'une main dans l'autre, les écus qu'il avait tirés de sa bourse. « Hé, 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 comme ça sonne !»« Eh bien, cependant, pour tout un tas de ces jouets, je ne te demanderai qu'un seul service. » « Oh, donne, diable !» s'écria Petro. « Je suis prêt à tout !» Ils se topèrent mutuellement dans la main. « Attention, Petro, tu viendras au moment convenu. C'est demain la Saint-Jean. C'est dans cette seule nuit de l'année que la fougère fleurit. Ne laisse pas échapper l'occasion. Je t'attendrai cette nuit dans le fossé de l'ours. Je crois que les poules n'attendent pas la fermière qui leur apporte du grain avec plus d'impatience que Pétrus n'attendit le soir. » Il ne faisait que regarder si l'ombre des arbres ne s'allongeait pas, si le soleil couchant ne prenait pas son éclat pourpre, et chaque minute augmentait sa fièvre. Que le temps est long! Voilà, cependant, le soleil disparut. Le ciel n'est plus rouge que sur un point de l'horizon, mais là aussi s'éteint la lumière. La fraîcheur s'élève des champs. Il se fait sombre, plus sombre encore. Il fait nuit, enfin. Le cœur bondissant d'émotion comme s'il allait éclater dans sa poitrine, Pétrus traverse la forêt, descendit dans le jaravin profond qu'on appelle le fossé de l'ours, et Bassariouk l'y attendait. La nuit était aussi profonde que dans un souterrain. Bras dessous, les deux compagnons pataugeaient dans les marécages en se raccrochant aux buissons épineux et drus et butaient presque à chaque pas. Ils étaient enfin arrivés à un endroit uni. Pétrus regarda autour de lui. Jamais encore il ne s'était hasardé dans ce lieu. Bassariouk s'arrêta aussi. « Devant toi, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. Tu vois trois monticules, mais il va soudain y croître 1000 fleurs différentes. Qu'aucune volonté au monde ne te pousse à en toucher une seule. Mais aussitôt que la fougère fleurira, arrache sa fleur et ne regarde pas derrière toi malgré tout ce qui pourra arriver. Pétrus voulait encore questionner, mais déjà Bassariouk avait disparu. Pétre alors s'avança vers les trois monticules. Aucun n'avait ni fleurs, ni même trace de fleurs. Seule l'herbe sauvage les couvrait de sa noire épaisseur. Soudain, l'étoile du soir apparaît dans le ciel, et tout un parterre de fleurs merveilleuses, comme Pétrus n'en avait jamais vu, resplendit devant lui. Parmi elles se trouvait aussi la simple verdure de la fougère. Petre, les deux mains sur ses flancs, demeura hésitant et réfléchi. « Mais qu'y a-t-il après tout de si étonnant ?» se disait-il. « 10 fois par jour, il arrive de rencontrer cette herbe. Qu'y a-t-il de si merveilleux ? Ce museau de diable aurait-il voulu par hasard se moquer de moi ?» Et tout à coup, il voit un petit bourgeon rougir et s'agiter comme si la ville animait. « Oh, c'est étrange, en effet !» Le bourgeon continue à s'agiter, grandit et brûle comme un tison. Une étincelle éclate, un léger crépitement se fait entendre et la fleur s'épanouit devant ses yeux, comme une flamme en jetant un éclat incandescent sur les autres fleurs autour d'elle. « Oh, il est temps !» se dit Pétrus en avançant le bras. Mais en même temps, il voit sortir de derrière lui des centaines de bras velus qui se tendent aussi vers la fleur, et il perçoit comme un bruit de pas qui court. Il ferme les yeux, attire à lui la tige, et la fleur reste entre ses mains. Tout se tut. Sur le tronc coupé d'un arbre se montra assis Bazavriouk, tout bleu comme un mort. Pas un muscle ne remuait en lui. Ses yeux immobiles fixaient une chose que lui seul pouvait voir. Sa bouche, à demi ouverte, était sans parole. Pas un souffle autour de lui. Oh, effrayant! Soudain, on entendit un sifflement qui glaça le sang dans les veines de Pétreux. Il lui sembla que l'herbe chuchotait. Et les fleurs commencèrent à parler entre elles avec des voix aigrelettes, semblables à des tintements de clochettes d'argent. Des arbres agités et qui bourdonnaient en se menaçant tombaient comme une pluie d'injures égrenées. Le visage de Bassavriouk s'anima tout à coup. Ses yeux lancèrent des éclairs. « Oh, te voilà arrivé, sorcière » grommela-t-il entre les dents. « Regarde, Petro, la belle va apparaître tout à l'heure devant toi. Fais tout ce qu'elle t'ordonnera, sinon tu es perdu. » Puis, de son bâton noueux, il écarta le buisson épineux, et aussitôt apparut la petite maisonnette ordinaire des sorcières, bâtie, comme on sait, sur des pattes de poule. Bassavriouk frappa du poing et le mur chancela. Un grand chien noir, aux aboiements furieux, s'élança à la rencontre de Bassavriouk et de son compagnon, puis subitement, se transformant en chat, se jeta sur eux. « Ne fais pas la furibonde, ne fais pas la furibonde, vieille diablesse !» fit Bassavriouk avec un tel juron que tous les braves gens s'en seraient bouchés les oreilles. Soudain, au lieu du chat, se montra une vieille femme au visage ridé comme une pomme cuite et courbée en deux, le nez et le menton en casse-noisette. « Une vraie belle !» pensa Pedro, et un frisson lui courut dans le dos. La sorcière lui arracha la fleur, se baissa, et la tenant dans ses mains, l'arrosa d'une certaine eau en marmottant longuement. Des étincelles jaillirent de sa bouche et l'écume monta à ses lèvres. « Jette-la » dit-elle à Petro en lui rendant la fleur. Petrus obéit et, ô merveille, la fleur ne tomba pas tout de suite. Mais longtemps l'on vit comme une petite boule de feu qui voguait dans l'air ainsi qu'une petite barque au milieu de l'obscurité. Enfin, tout doucement, elle commença à descendre et tomba si loin qu'elle n'apparaissait plus que comme une petite étoile de la grosseur d'un grain de pavot. « Ici !» fit la vieille d'une voix rauque et sourde, tandis que Bazavriouk, remettant une pioche à Petro, lui disait « Creuse ici, Petro, tu y trouveras plus d'or que toi, et quand je n'en avais jamais vu, même en rêve !» Petrus cracha dans ses mains, prit la pioche, appuya de son pied, retourna la terre une première, une seconde, une troisième et encore une autre fois. Il rencontra quelque chose de dur. La pioche résonna et n'alla pas plus loin. Alors il commença à distinguer une petite caisse cerclée de fer. Déjà, il s'apprêtait à la retirer, mais la caisse s'enfonça dans la terre. Plus il faisait d'efforts pour la saisir, plus profondément elle descendait. Derrière lui, se fit entendre un rire qui ressemblait plutôt à un sifflement de serpent. Non, tu ne l'auras pas alors, avant que tu ne te sois procuré du sang humain, dit la sorcière, en amenant devant lui un enfant de 6 ans recouvert d'un drap blanc. Et d'un signe, elle fit comprendre à Petro qu'il devait lui couper la tête. Le jeune homme resta pétrifié. Non seulement il fallait couper la tête à un être humain, mais encore, cet être était un enfant innocent. Furieux, il arracha le drap qui couvrait l'enfant et que vit-il? Ivas. Le pauvre petit avait les mains jointes sur la poitrine et la tête baissée. Hors de lui, Pétrus s'élança avec un couteau sur la sorcière. Déjà, il levait la main. Et ta promesse pour posséder la jeune fille? Fit Bazarfioug d'une voix tonnante qui tapa comme une balle le dos de Petre. La sorcière frappa du pied. Une flamme bleue s'échappa de la terre et la place resta illuminée. Le sol devint transparent comme du cristal et tout ce qui était au-dessous devint aussi visible que sur la main. Des écus, des pierres précieuses étaient entassés dans des caisses, dans des chaudières juste sous les pieds. Les yeux de Pétrus flamboyaient, sa tête se troubla. Affolé, il saisit son couteau et le sang innocent jaillit sur sa figure. Des rires diaboliques retentirent de tous côtés. Des monstres affreux sautèrent en bande devant lui. La sorcière, enfonçant ses griffes dans le corps décapité, en but le sang comme une louve. Tout tourna dans la tête de l'être. Réunissant ses forces, il se mit à courir, et tout devant lui se couvrait d'une couleur rouge. Les arbres ensanglantés flambaient en gémissant, le ciel embrasé tremblait. Des taches de feu passaient comme des éclairs devant les yeux de l'être. À bout de force, il rentra en courant dans sa chaumière, et comme une gerbe, il tomba par terre. Un sommeil de mort l'envahit aussitôt. 2 jours et 2 nuits, Pétrus dormit sans se réveiller. Revenant à lui, le 3e jour, il examina longtemps les coins de sa chambre. Mais en vain, il s'efforçait de rassembler ses souvenirs. Sa mémoire était comme la poche d'un vieil avare, de laquelle on ne peut pas même retirer un demi-copec. En s'étirant un peu, il entendit résonner quelque chose à ses pieds. Il regarda et vit 2 sacs pleins d'or. Alors seulement, il se rappela d'une manière vague qu'il cherchait un trésor et qu'il avait eu peur tout seul dans la forêt. Mais à quel prix? Comment avait-il pu se procurer ce trésor? Cela, il ne pouvait le comprendre d'aucune façon. Qu'encore je vis les sacs. Il s'attendrit. Ce fut Petrus, par-ci, Petrus, par-là. Voyez-vous ce noir? Oh, est-ce que je ne l'aimais pas? N'était-il pas ici chez moi, comme mon propre fils? Et le vieux Réfort se mit à tant lui en conter, à tant lui en chanter, que le jeune homme en fut touché jusqu'aux larmes. Pendant ce temps, Pidarka lui apprit que des Tziganes de passage avaient volé Ivas. Mais Petre ne se rappelait plus rien, à tel point l'infernable diabrie l'avait étourdi. Il n'y avait pas de temps à perdre. On fit son pied de nez au Polonais et on commença les préparatifs du mariage. On fit cuire des chitchkas, On confectionna des essuie-mains brodés et des foulards. On remonta de la cave un tonneau d'eau-de-vie. On fit asseoir à table les jeunes mariés. Le pain de noces fut coupé. Des bandouras, des cymbales, des fifres, des copsas retentirent. On ne peut pas comparer les noces du vieux temps aux noces d'aujourd'hui. Quand la tante de mon grand-père se mettait à nous les raconter, je ne vous dis que ça. D'abord, c'était comment les jeunes filles, richement coiffées de rubans jaunes, bleus, roses, par-dessus lesquels se nouaient des passementeries de dorées, et en chemise de toile fine brodée sur toutes les couleurs, toutes tures, de soie rouge et toutes couvertes de petites fleurs d'argent, chaussées de bottes de maroquin avec des hauts talons ferrés, glissaient comme des pannes, ou bruyantes comme des ouragans, sautaient dans la chambre. Puis comment d'autres jeunes filles, coiffées d'un corac blic, dont le haut était de brocart d'or avec une petite séparation sur la nuque, d'où sortait un bonnet doré et de petites cornes de plus fine fourrure du noir mouton, alors l'une en avant, l'autre en arrière, vêtue de kountouche bleue de la meilleure soie, avec des parements rouges sur la poitrine, sur les manches, et à l'endroit des poches, les mains crampées sur les reins, s'avançaient fièrement une à une en frappant de leurs pieds la mesure du copac. Comment les jeunes gens, avec de hauts bonnets de cosaques, vêtus de svitka de drap fin, serrés dans des ceintures brodées d'argent, leurs pipes entre les dents, se démenaient autour des jeunes filles en leur contant des balivernes. Le vieux Corge lui-même ne put se retenir en voyant les jeunes et se mit aussi de la partie. Une bandoura dans les mains, en tirant de sa pipe des bouffées de fumée et en chantonnant en même temps, un gobelet sur la tête, il s'élança et se mit à tournoyer, accompagné par les cris des noceurs. Que de choses n'invente-t-on pas quand on a déjà la tête un peu échauffée? On se déguisa et on mit des masques. On ne ressembla plus à des gens. Oh, ce n'était pas comme les travestissements de nos noces d'aujourd'hui. Que fait-on maintenant? On se borne à imiter les tziganes et les moscovites. Non, tandis que jadis, l'un se travestissait en juif, l'autre en diable. On commençait d'abord par s'embrasser, puis on se tirait par les cheveux, enfin... Que vous dirais-je, on riait à s'en tenir les côtes. On mettait des habits de turc et des habits de tartare. Cela brillait sur vous comme du feu. Et quand on se mettait à faire des tours, alors il fallait emporter tous les saints de la maison. À mon arrière-grand-tante, qui assista à cette noce, il arriva une amusante histoire. Elle s'était affublée d'une large robe de tartare et un gobelet à la main, elle faisait les honneurs à l'assistance. Voilà que le malin poussa l'un des convives à lui verser de l'eau-de-vie sur le dos. Un autre, qui était aussi un avisé, battit le briquet au même moment et alluma le dos de la tante. La malheureuse, tout effrayée, commença à se déshabiller devant tout le monde. Des cris, des rires, une vraie cacophonie comme à la foire. En un mot, les vieux eux-mêmes ne se souvenaient pas d'une noce aussi joyeuse. Aussi, Pidarka et Petrus commençaient à vivre comme de vrais seigneurs. Ils avaient de tout en abondance, tout étincelait autour d'eux. Cependant, les bonnes gens hochaient la tête avec méfiance. « Bien, jamais du bien où le diable se mêle, » disait-il d'une seule voix. Car d'où Petrus avait-il pu avoir une telle richesse, si ce n'était pas du tentateur de la gent orthodoxe? Et pourquoi, précisément, le jour où il devint riche, Basavriouk disparut-il comme sous terre? Dites que les gens aiment inventer, puisqu'en effet, un mois à peine après le mariage, Petrus n'était plus reconnaissable. Pourquoi et comment avait-il changé ainsi? Dieu le sait. Toujours est-il qu'il restait assis sur place, sans échanger un seul mot avec personne, toujours absorbé dans ses réflexions et comme s'efforçant de se rappeler quelque chose. Quand Pidarka réussit à le faire parler un peu, il semble soudain s'animer, s'oublier, devenir même gai. Mais si par hasard il jette ses regards sur les sacs d'or... « Attends, attends, j'ai oublié » crie-t-il. Et de nouveau il devient songeur et de nouveau il cherche à se rappeler. Par moments, quand il reste longtemps à la même place, il lui semble que le jour va enfin se faire dans son esprit. Mais encore une fois, tout disparaît. Il se rappelle bien être allé au cabaret. Il s'y voit, on lui apporte de l'eau de vie, elle lui brûle la gorge, elle le dégoûte. Quelqu'un s'approche, lui frappe sur l'épaule, puis tout se couvre d'un brouillard devant lui. La sueur inonde son visage et il reste exténué à sa place. Que ne faisait pas Pidarka? Elle demandait conseil au guérisseur, elle faisait couler le perpolopoloc, cuire la surdialsunitsa, rien ne soulageait Petrus. L'été passa ainsi. Nombre de cosaques avaient déjà fauché et récolté. Nombre d'autres, plus hardis, étaient partis en excursion. Des bandes de canards sauvages se pressaient encore sur nos marécages. Mais déjà depuis longtemps, les roitelets avaient disparu. Les steppes prenaient leur teinte rouge d'automne. Ça et là, semblables à des bonnets de cosaques, des meules se montraient dans les champs. Sur la route, on rencontrait des charrettes pleines de broussailles et de bois. La terre devenait déjà plus dure sous les pieds et par endroits se glaçait. Déjà la neige commençait à se tamiser, et les branches des arbres saupoudrées de givre semblaient recouvertes d'une fourrure de lièvre. Déjà, par une claire journée de gelée, le bouvreuil au poitrail rouge, comme un élégant dandy polonais, se promenait sur les monticules de neige en y picorant des grains. Et les enfants, avec de grandes perches, faisaient tourner des toupies en bois pendant que leur père, après s'être longtemps prélassé sur leur fourneau, apparaissait par intervalles sur le seuil de leur demeure, la pipe entre les dents, pour envoyer un bon juron à la gelée orthodoxe, ou prendre un peu l'air ou remuer le blé dans la grange. Enfin la neige elle-même commence à fondre. Le brochet de sa queue a déjà rompu la glace, mais Petrus reste toujours le même. Et plus il va, plus il devient morose. Il est assis comme cloué au milieu de sa cata, ses sacs d'or à ses pieds. Il est devenu sauvage. Il a laissé croître ses cheveux et sa barbe. Il est terrifiant et ne pense qu'à une chose, se souvenir. Il se fâche, il s'irrite de son impuissance. Souvent, l'air égaré, il se lève de sa place, agite les bras, et de ses yeux fixes, semble désigner quelque chose qu'il veut atteindre. Ses lèvres remuent comme si elles voulaient prononcer une parole oubliée, puis elles s'arrêtent. Une rage l'envahit. Fou, il ronge et mord ses mains, il s'arrache avec colère des poignées de cheveux, jusqu'à ce que, calmé, il tombe dans une sorte de torpeur. Puis il recommence à se souvenir et de nouveau la rage, de nouveau les souffrances. Mais d'où vient cette malédiction de Dieu? La vie n'est plus possible pour Pidarka. Elle avait peur d'abord de rester seule auprès de son mari dans la cata. Peu à peu, cependant, la pauvrette s'est habituée à son malheur. Mais on ne reconnaît plus la Pidarka de jadis. Plus de roses sur les joues, plus de sourires sur ses lèvres. Elle est fatiguée, amaigrie, les larmes se sont taries dans ses yeux. Un jour, quelqu'un eut pitié d'elle et lui conseilla d'aller trouver la sorcière qui demeurait dans le ravin de l'ours et qui avait la renommée de guérir toutes les maladies du monde. Pidarka se décida à employer ce dernier moyen. Elle se rendit à l'endroit indiqué et réussit à persuader la vieille de la suivre au village. C'était précisément ce soir-là, encore la veille de la Saint-Jean. Petro était étendu sur un banc et ne vit pas la nouvelle arrivée. Mais peu à peu, il commença à se soulever et à l'examiner. Tout à coup, il tressaillit comme sur le billot, ses cheveux se dressèrent sur sa tête et il s'esclaffa d'un tel rire que Pidarka devint terrifié. Ah, je me souviens, s'écria-t-il avec une joie horrible, et brandissant une hache, il la lança de toutes ses forces dans la vieille. La hache s'enfonça de 3 pouces dans la porte de chêne. La vieille disparut, et un enfant de 7 ans, en chemise blanche, la tête recouverte, resta au milieu de la cata. Le drap tomba. Ivas! S'écria Pidarka en s'élançant vers lui. Mais le fantôme se couvrit de sang de la tête aux pieds et remplit la cata d'une lumière rouge. Tout effrayé, Pidarka se sauva hors de la maison. Puis revenant à elle, elle voulut courir à l'aide de son frère. Ce fut en vain. La porte s'était fermée derrière elle si fortement qu'elle n'eut pas la force de l'ouvrir. Des gens accoururent, ils se mirent à frapper et finalement enfoncèrent la porte. Pas une âme. Toute la cata est pleine de fumée, et au milieu, là où était Pétrus, se trouvait un tas de cendres d'où par endroits s'échappait encore de la vapeur. On se jeta sur les sacs, et au lieu d'écus, on n'y trouva que des débris de poterie cassée. Les yeux et les bouches grandes ouvertes, n'osant pas remuer un seul poil de leurs moustaches, les Cosaques demeuraient comme cloués sur terre. Telle fut l'épouvante qui les envahit. De ce qui se passa après, je ne me souviens plus. Pidarka fit le vœu d'aller en pèlerinage, ramassa tout le bien qui lui vint de son père, et quelques jours après, elle avait quitté le village. Où était-elle partie? Personne ne pouvait le dire. Des vieilles commères l'avaient d'abord envoyée là où était déjà parti Pétrus. Mais un Cosaque qui arrivait de Kiev racontait qu'il voyait dans la Laure une religieuse desséchée comme un squelette et tout le temps en prière. Dans la description qu'il en fit, les gens du pays reconnurent Pidarka. Il disait encore que personne n'avait jamais entendu une seule parole d'elle, qu'elle était venue à pied en apportant pour l'icône de la Sainte Vierge un ornement semé de pierres si éclatantes que les yeux éblouis se fermaient tous en le regardant. Permettez, là ne se termine pas encore l'histoire. Le même jour que le diable avait entraîné Pétrus chez lui, Massavriouk reparut de nouveau, mais tout le monde le fuyait. On connaissait déjà l'oiseau. Il n'était rien d'autre que Satan, qui avait pris le masque d'un homme pour découvrir les trésors. Mais comme les trésors ne se laissent pas prendre par des mains impures, il séduisait des gens. La même année, tous abandonnèrent leurs chaumières et allèrent habiter le grand village. Mais là non plus, on ne fut pas à l'abri du maudit Bazavriouk. La tante de mon défunt grand-père disait que c'était à elle qu'il en voulait le plus, parce qu'elle avait abandonné son cabaret de la Grand-Route, et il cherchait à se venger de toutes les manières. Un jour, les anciens du village, réunis dans le cabaret, s'entretenaient entre eux, assis autour d'une table, au milieu de laquelle était servi, pour vous dire sans mentir, un mouton entier rôti. On parlait de cela, d'autre chose. On contait aussi des histoires merveilleuses. Et tout à coup, les convives croient voir. Oh, ce ne serait encore rien si ce n'eût été qu'un, mais tous à la fois. Le mouton levait la tête, ses yeux éteints s'animaient et s'allumaient en des moustaches drues, qui poussèrent soudain, remués du côté des assistants d'une manière significative. On reconnut aussitôt dans la tête du mouton le museau de Mazavriouk, mon arrière-grand-tante. S'attendait déjà à l'entendre demander de l'eau de vie. Les honorables anciens saisirent aussitôt leur bonnet et se sauvèrent. Une autre fois, le marguillier lui-même, qui aimait de temps à autre à causer en tête-à-tête avec le gobelet des aïeux, eut à peine regardé pour la seconde fois le second fond de son verre, qu'il vit tout à coup ce même verre le saluer respectueusement. « Oh, que le diable t'emporte !» Et il se signa. En même temps, une chose aussi étrange arrivait à sa moitié. À peine s'était-elle mise à pétrir la pâte dans un grand tonneau, que tout à coup, le tonneau sursauta. « Arrête, arrête !»« Mais quoi ?» Dans la position d'un homme qui se tiendrait les deux mains sur les hanches, le tonneau, avec un air d'importance, se mit à danser dans toute la cata. Riez, riez de cela. Mais le grand-père était loin d'en rire, et malgré que le père Athanase traversa tout le village pour chasser le diable en aspergeant les rues d'eau bénite, mon arrière-grand-tante se plaignait quand même toujours. Disant qu'aussitôt le soir venu, quelque chose frappait sur le toit et grattait le mur. Mais quoi ? Ainsi à présent, sur la place même où est bâti notre village, et où tout semble tranquille, il n'y a pas cependant longtemps encore que feu mon père se souvenait, et moi aussi, que les braves gens ne pouvaient passer auprès du cabaret en ruine. Longtemps, la race impure l'entretint à son compte. Du tuyau du poêle noirci, la fumée s'échappait en colonne et s'élevait si haut que, quand on la regardait, le bonnet tombait de la tête. Cette fumée se répandait en tisons embrasés sur les steppes. Et le diable, oh, je ne devrais même pas nommer ce fils de chien, le diable sanglotait si plaintivement dans sa retraite que les corbeaux, effrayés, s'envolaient de la forêt de chênes voisines et sillonnaient le ciel avec des cris sauvages.